Our next speaker is Olivier Roy, who is currently joint chair at the Robert Schuman Center for Advanced Studies and SPS departments at the European University Institute in Florence. Previously, he has been senior researcher at the CNRS in France and also professor at the School of Advanced Social Science Studies in Paris. He headed the mission for Tajikistan 1993 to 1994 of the Organization for Security and Cooperation in Europe and was a consultant for the UN Office of the Coordinator for Afghanistan in 1988. He has been heading the ERC-funded project Religio West since 2011. His field work includes political Islam, the Middle East, Islam in the West, and comparative religion. He is the author of many books and publications in his multiple fields of research, which again, in the interest of time, I'm not going to outline. Professor Roy.
Thank you very much. non, je parlais français, oui. C'est mieux pour l'anglais. quand on est... Un des grands problèmes pour étudier le facteur religieux dans les phénomènes de violence, c'est que nous sommes une société qui comprend mal ou qui ne comprend plus le religieux. C'est-à-dire nous sommes des sociétés hautement sécularisées. Et je dirais même dans beaucoup de pays musulmans aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas une spécificité de l'Europe occidentale. Il y a un analphabétisme religieux croissant aujourd'hui, qui fait que le religieux apparaît comme bizarre. Et les sciences sociales n'aident pas à la compréhension du religieux, parce que les sciences sociales confortent, j'allais dire, la sécularisation du religieux. Elles cherchent toujours à traduire le religieux dans du séculier. Par exemple, en termes d'identité, en termes de protestation, en termes de psychologie, le droit aussi traite le religieux sous d'autres registres, liberté d'expression. Les hate speech, par exemple, mettent dans le même sac la religion, la race, le genre, etc., etc. Donc on ne voit pas, on ne comprend plus la spécificité du religieux. Ce qui fait que le religieux, quand il apparaît comme tel, apparaît souvent comme violent. Comme si, dans le fond, il y avait un point commun entre violence et religion, qui était l'irrationalité. L'incapacité à se rationaliser. Dans ce qui nous intéresse ici, la violence, la religion peut être totalement absente, par exemple dans les mouvements d'extrême gauche, ils sont plutôt anti-religieux. La religion peut être explicite, mais de manière ambiguë. On dit les catholiques et les protestants pour l'Irlande du Nord, donc la référence religieuse est explicite. Mais est-ce qu'elle correspond à une foi? Est-ce qu'elle correspond à une pratique religieuse? En Irlande du Nord, on sait que non, non. L'IRA avait, disons, une tendance socialiste et marxiste, et la pratique religieuse chez les protestants nord-irlandais est une des plaies des plus faibles de l'Europe occidentale. Mais la religion peut être aussi implicite, c'est-à-dire sans référence explicite au religieux, on peut avoir des comportements de type religieux, des comportements mystiques dans la violence. Donc vous voyez, on a déjà une complexité là-dessus. On a un problème de catégorisation. Prenons par exemple Breivik, l'assassin d'extrême droite norvégien. Il se réclame explicitement du christianisme. Dans l'énorme pavé livre qu'il a écrit sur Internet, les croisades, la lutte, Charles Martel occupe des dizaines et des dizaines de pages. En même temps, il n'a aucune pratique religieuse. Il ne demande pas un aumônier, il ne va pas à l'église, il ne prie pas, etc. En travaillant sur les trajectoires des terroristes qui ont sévi en Europe occidentale au cours des 20 dernières années, 20 années, hein, c'est-à-dire de Khaled Kelkal en 1995 aux attentats du Bataclan, on s'aperçoit que la plupart de ceux qui commettent une action suicide n'ont pas de trajectoire religieuse. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas d'une radicalisation de la religion. Mais ils sont religieux quand ils passent à l'action. Ils croient sincèrement qu'ils vont aller au paradis. Donc la religion n'est pas seulement un prétexte. Elle n'est pas seulement un vernis pour d'autres explications. Elle est au cœur de leur action, sans être la cause de leur action. Et c'est là que nous, on a un problème. On a un problème pour comprendre ça. On peut étudier tout ce qui provoque, disons, le sentiment de frustration qui est au cœur des terroristes. Et ça, bon, on en parle, on en parlera. Le racisme, l'exclusion sociale, le postcolonial, l'échec individuel. Bon, tout ce que vous voulez. Mais il reste le saut final, le passage final aux religieux. Alors soit on l'élimine, comme mon collègue François Burgat, qui dit on a affaire à un parler musulman, Muslim speak. Ils expriment en termes religieux quelque chose qui n'est pas religieux, qui est profondément politique, social et culturel. Pourquoi pas, hein, je ne vais pas rentrer dans la querelle que mentionnait Michel tout à l'heure, je vais juste poser le problème. Un des problèmes, c'est que selon l'analyse que l'on fait du religieux dans la violence, eh bien, on conclut au rôle du religieux dans la sortie de la violence. C'est-à-dire qu'on va présupposer le rôle du religieux dans la sortie de la violence, alors qu'on n'est pas sûr de comprendre le rôle du religieux dans la violence. Et je vais donner un certain nombre d'exemples. On attribue des problèmes spécifiques aux religieux par rapport à la violence sur, disons, quatre registres. D'abord, on dit, le problème du religieux, c'est que le religieux pose un non négociable, quelque chose qui n'est pas négociable. Voilà. Et donc, évidemment, si on pose quelque chose qui n'est pas négociable, comment peut-on organiser dans une société la démocratie, par exemple, le vivre ensemble, le compromis. Et on en conclut qu'il faut que les religieux négocient leur religion. C'est un faux problème. Là, je renvoie aux travaux d'Olivier Christin, l'historien, sur la paix de religion. Et je crois qu'il faut lire ça. Sa question, c'est, bon, il y a eu une guerre de religion, et on voit très bien qu'elle est sur le non négociable, la guerre de religion. Quand vous lisez les 95 thèses de Martin Luther, les deux dernières disent explicitement « Ce que je viens de dire n'est pas négociable. » Voilà. Je mourrai pour ce que je viens de dire. Et vous pouvez me tuer. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a fait la guerre pendant 150 ans. Bon. Ce qui est une manière de poser le problème. Mais la guerre n'a fait gagner personne. Et très vite, les États, dès le début, les rois, se sont dit « Bon, comment éviter la guerre civile dans mon royaume ?» Et ils ont essayé de faire des compromis religieux. Ils ont ramené les théologiens protestants, des théologiens catholiques, et allez-y, parler de l'Eucharistie. Évidemment, zéro. Parce que ce n'est pas négociable. Donc faire venir des théologiens qui vont vous dire Abraham, etc. Non. Des politiques, oui. Et Christin montre très bien que la paix de religion a été faite par des légistes, des lawyers, des hommes politiques, le pouvoir politique. Et donc, on a effectivement un bon exemple comment on peut gérer politiquement ce refus de compromis du religieux. Ça a déjà été fait, c'est faisable. Quand le pape Benoît XVI dit « l'avortement, c'est pas négociable », bon, on dit « ok ». Puis on négocie, bien sûr, mais on dit pas « oui ». Bon, on vous demande pas de dire « vive l'avortement ». De même, on ne va pas demander à des salafis de dire « je respecte le christianisme parce que dans le fond c'est une bonne religion, il y a des choses très très bien, etc. » On ne va pas lui demander. On ne va pas lui demander de signer une déclaration comme quoi les yézidis ne sont pas des hérétiques ou que les chiites ne sont pas des hérétiques. Il ne faut pas. Par contre, politiquement, oui, il y a un travail à faire. Le deuxième point où on voit surgir l'irrationalité et le fanatisme, c'est l'intensité de la foi. Et ça, spécialement en France. Comme vous le savez peut-être, par exemple, quand la police fait une enquête pour accorder l'accréditation aux bagagistes de l'aéroport de Roissy, qui sont facilement à 50% d'origine musulmane, la police fait une enquête sur l'intensité de leurs pratiques religieuses. Et la fiche de police, c'est « ne va jamais à la mosquée et boit de l'alcool ». Ouais. Va à la mosquée une fois par mois, ne mange pas de porc, mais accepte de boire de l'alcool au pot d'entreprise. Ouais. Bon. Va à la mosquée, ne bois pas d'alcool, louche, et ne mange pas de porc. Ou la deuxième enquête. Et après, prie une fois par jour. Troisième enquête. Prie cinq fois par jour. Zéro. Exclu. C'est une vieille tradition française. En 1904, le ministère de la Défense avait fait une enquête sur les officiers français de l'armée française catholique qui demandaient des promotions au grade de général, et c'était le même questionnaire. Va à la messe une fois par an, va à la messe tous les dimanches, va à la messe tous les jours avec missel. Alors là, zéro. Et le gars ne devenait jamais général. Bon. Et le troisième point qui est lié aux deux autres, c'est la radicalité théologique. C'est de dire la cause de la violence, c'est la radicalité théologique. Donc le salafisme est théologiquement radical. Oui, le salafisme est théologiquement radical. Oui, absolument. Et comme je disais tout à l'heure, il a une définition de l'hérétique, du halal et du pas-halal qui est très stricte. Et ça pose des problèmes de société, des problèmes de convivialité, des problèmes de participation à la vie politique. Il y a un problème. Bon. Mais est-ce que ça conduit à la violence ? Non, comme ça a été dit. Non, il n'y a pas de passage automatique du salafisme au terrorisme. Ce n'est pas vrai, puisque 80% des terroristes ne sont pas des salafistes. Et après, on peut se demander, est-ce qu'une fois qu'ils sont devenus religieux, est-ce qu'ils deviennent religieux sur un registre salafiste ? J'ai des doutes. Hein. Le comportement de Abdeslam ou de Abaoud après l'attentat n'est pas salafiste. Bon, mais on ne va pas rentrer dans les détails de ça. Donc, ça pose un problème, parce que la réponse à la violence religieuse, elle porte sur ces trois points, hein, qui ne sont justement pas les points de radicalisation violente. Alors, il y a un quatrième point où la religion est explicite, et où, oui, on peut dire que c'est lié, qu'il y a un lien, c'est ce qu'on peut appeler l'idéologisation de la religion. La théorie du califat est une idéologisation de la religion. Et Daesh a une remarquable production d'idéologisation de la religion. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des savants, des vrais. Leurs jeunes recrues ne sont pas des savants. Mais Daesh va employer des savants qui vont donner des tas de justifications religieuses aux choix politiques et au type de violence choisi par Daesh. Donc là, effectivement, je rentre pas dans le détail, on sait que Daesh va utiliser des néologismes, hein, comme le faisaient les frères musulmans, mais pas les frères musulmans, ça n'est pas dans le cadre de la violence. Hein. Pour s'ancrer dans le Coran, on va dans le fond utiliser des termes qui ont une vague résonance coranique, mais qui sont complètement contemporains, comme Hakimia, la souveraineté pour les frères musulmans, par exemple. Hein. Mais là, justement, comme on est dans l'idéologisation de la violence politique, de la religion, on peut avoir une réponse, disons, politique, un combat politique. Hein. Il ne faut pas du tout négliger le politique et se dire c'est juste un problème de théologie. Hein. Donc, une grande part. Bon, nuançons. Il est bon que les théologiens expliquent que Daesh a tort. Et que les salafistes ont tort. C'est bon, pour des tas de raisons. Mais il ne faut pas croire qu'on va convertir les radicaux à la modération en leur donnant des cours de religion. Parce que s'ils sont devenus radicaux, c'est pas parce qu'ils ont mal lu le Coran. En général, ils ne l'ont pas lu quand ils deviennent radicaux. C'est parce qu'ils veulent être radicaux. Hein, voilà, c'est tout bête. Hein. Donc, envoyer de bons aumôniers faire la leçon de Coran à ceux qui reviennent de Syrie pour les ramener dans le droit chemin, c'est pas vrai. Hein. Je suis d'un total scepticisme. Je peux me tromper, il peut y avoir des exceptions, C'est justement le genre de choses dont on est là pour débattre. Hein. Alors, qu'est-ce qui, dans le fond, reste le noyau dur, le problème qu'on a du mal à comprendre ? C'est le religieux implicite. Hein. C'est-à-dire, c'est la dimension mystique de la violence. Et là, on peut avoir des mystiques sans religion. Il y a, vous lisez Dostoïevski, vous regardez les anarchistes du 19e siècle, les Narodni, les révolutionnaires russes de la fin du 19e siècle, et vous avez une mystique de la mort, une mystique de la violence, mais explicite. Hein, hein. Dans la quête de la mort, il n'y a pas seulement l'espoir qu'on va au paradis. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de nihilisme, qui n'est pas très bon. Je suis d'accord. Parce qu'on peut dire la différence entre un anarchiste qui se laisse prendre et qui se fait condamner à mort et qui est exécuté, comme je crois que c'est Michel Henry, le premier terroriste qui a inventé, qui a dit « il n'y a pas d'innocent ». Henri Michel. Hein. « Il n'y a pas d'innocent ». Alors, il a dit « il n'y a pas de bourgeois innocent ». Bon. Mais les gens du Bataclan peuvent dire « il n'y a pas de Français innocent hein. ». Ce n'est pas en ajoutant un adjectif qu'on va changer le fond. Mais cette idée-là, c'est-à-dire « tout le monde est coupable ». Et puis, qui se laisse prendre, qui s'explique à son procès et qui meurt à moins de 30 ans, il ne croyait pas au paradis, évidemment. Hein. Et on peut dire, par contre, les jeunes du Bataclan, ils pensent qu'ils vont aller immédiatement au paradis, donc ils ne sont pas nihilistes. Mais dans le fond, pour moi, et là je peux aussi me tromper, hein, c'est profondément similaire comme comportement. Parce que dans les deux cas, vous avez l'idée qu'il n'y a pas de futur sur Terre. No future. Aucun des jeunes, et même y compris parmi les djihadistes, hein, terroristes et djihadistes, ne s'intéresse vraiment à construire une société islamiquement juste en Syrie. Hein. Ils disent « je veux vivre dans une société islamique ». Mais aucun ne travaille réellement à la construction d'une société islamiquement juste. Et ça, c'est intéressant. Hein. Ça ne les intéresse pas. Et c'est pour ça que Daesh a un réservoir fantastique de volontaires pour la mort, qu'ils utilisent en ce moment par centaines. Hein. Par exemple, leur résistance militaire autour de Mossoul. Hein. Et ça, donc, ils ont des jeunes qui sont volontaires pour la mort, oui. Hein. Et je crois que c'est une dimension sur laquelle il faut travailler. Et ça explique très largement pourquoi, aujourd'hui, les psys, hein, psychanalystes, psychologues, etc., sont sur ce terrain de la radicalisation et de la déradicalisation. Et c'est légitime. Le problème, c'est d'articuler ça sur la violence comme phénomène politique. Parce que le risque, c'est que si on psychologise, on fait tout passer sur les problèmes de l'individu ou les problèmes métaphysiques d'une certaine jeunesse. Hein, et si on politise tout, on ignore dans le fond pourquoi ces jeunes passent à la violence. Et donc je crois que le travail, c'est ici sur qu'est-ce qui se passe dans l'articulation entre quelque chose qui est profondément personnel, spirituel, mystique, j'emploie le mot, hein, et une construction narrative, comme celle de Daesh, qui est politique et idéologique. Et c'est l'articulation des deux qui fait à la fois la force et l'étrangeté de cette violence absolue qui est la violence de Daesh. Je vous remercie.